Laudetur Jesus Christus.
Investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a signé ses premiers décrets hier. Le pape l'a appelé à favoriser la compréhension, la réconciliation et la paix. Les attentes dans le monde sont nombreuses après cette élection. Les Palestiniens appellent Joe Biden ainsi à travailler à la création d'un État qui leur soit propre, alors qu'Israël a profité jusqu'au dernier jour du mandat de Donald Trump pour amplifier les constructions de logements dans les colonies de Cisjordanie. La Turquie tente de se rabibocher avec l'Union européenne sous pression dans son pays. Le président Erdogan aimerait résoudre les sujets de contentieux avec les Européens pour retrouver un peu d'air pour son économie. Alexei Navalny, depuis sa prison, publie sur Internet une vidéo présentant une résidence luxueuse attribuée au président Poutine. Une résidence qui aurait été construite avec l'argent de la corruption. Les Canaries, nouvelle porte d'entrée de l'Union européenne pour des milliers de migrants africains. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes à cet archipel espagnol. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, c'est sur sa propre Bible familiale que Joe Biden a prêté hier serment, devenant ainsi le 46e président des États-Unis. Sa tâche s'annonce ardue entre les ravages dus à la crise sanitaire et économique et les fractures profondes exacerbées par le passage de Donald Trump. C'est pourquoi Joe Biden promettait hier, une fois encore, d'être le président de tous les Américains. À New York, Loïc Loury.
Célébrer l'Amérique le temps d'une soirée, ce programme était diffusé hier sur la plupart des grandes chaînes de télévision américaines. Joe Biden y est apparu brièvement dans le Lincoln Memorial, l'occasion de redire ce qui a été le message de sa campagne. Les épreuves qui nous attendent nécessitent la chose la plus insaisissable dans notre démocratie, l'unité. Le sort de l'Amérique ne dépend pas de l'un d'entre nous ou de quelques-uns, mais de nous tous, nous le peuple, voilà la tâche qui nous attend. Rassemblé après 4 ans de présidence Trump dans une Amérique plus divisée que jamais, encore faut-il apporter des gages à ses détracteurs. Or, Joe Biden, désire au travail, a signé toute une série de décrets pour effacer déjà les traces du passage de son prédécesseur. Nous rendons les masques obligatoires et la distanciation physique dans les bâtiments fédéraux et pour les vols entre États. Des mesures comme ici liées au Covid, mais aussi le retour des Américains dans l'accord de Paris sur le climat et à l'OMS, la suspension des travaux du mur à la frontière mexicaine et autres décrets migratoires. Une rupture nette avec son prédécesseur qu'il devra conjuguer avec ses messages d'unité s'il veut ramener à lui une partie des Américains qui ont voté pour Donald Trump. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Si le Canada semble peu goûter le blocage de l'oléoduc Keystone, le Mexique, lui, salue la suspension de la construction du mur à sa frontière. En Europe, la chancelière allemande a hâte d'ouvrir un nouveau chapitre avec les États-Unis. Le président français lui déclarait « Welcome back » en anglais dans le texte. Autre message, celui du pape François qui prie pour que les décisions de Joe Biden soient guidées par le souci de construire une société marquée par une justice et une liberté authentique, ainsi que par un respect sans faille des droits et de la dignité de chaque personne, en particulier des pauvres, des personnes vulnérables et de celles qui n'ont pas de voix. Le Saint-Père prie également Dieu de guider les pas du président Biden pour favoriser la compréhension, la réconciliation et la paix au sein des États-Unis et entre les nations du monde, afin de faire progresser le bien commun universel. Joe Biden est très attendu sur la scène internationale, notamment au Proche-Orient. Israël l'a appelé à renforcer l'alliance entre les deux pays face notamment à la menace de l'Iran. Les Palestiniens l'ont eux invité à œuvrer à la création d'une Palestine indépendante. Ils ont aussi dénoncé les projets de construction de logements dans les colonies israéliennes en Cisjordanie, notamment le dernier en date qui en prévoit 2500, des projets qui ont été formellement entérinés par l'administration de Donald Trump. À Jérusalem, Valérie Ferron.
Le premier ministre palestinien Mohamed Ejtayeh a appelé la nouvelle administration américaine à mettre fin à ce qu'il a qualifié de carnage sans précédent de la colonisation israélienne. Depuis les accords de paix d'Oslo signés en 1993, le nombre des colons israéliens a triplé pour atteindre actuellement 700 000 personnes vivant illégalement en Cisjordanie, y compris dans la partie occupée de Jérusalem. Un chiffre qu'Israël veut faire passer à 1 million dans la prochaine décennie. Sous le mandat de Donald Trump, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a mis les bouchées triples pour avancer ses projets d'expansion territoriale, dont le dernier, juste avant l'entrée en fonction de Joe Biden, visant à la construction de 2500 nouveaux logements dans les colonies. L'accélération de la colonisation en Cisjordanie passe par une augmentation des démolitions de maisons et de structures agricoles des Palestiniens, plus de 660 l'an dernier, selon l'Agence des Nations Unies, OCHA. Elle passe également par des ravages de l'environnement, notamment par la destruction l'an dernier de milliers d'arbres, en grande majorité des oliviers. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Les Libyens devraient se prononcer par référendum sur la future nouvelle constitution avant les élections de décembre prochain. C'est ce qui ressort des dernières discussions entre Libyens engagés dans le dialogue politique. En début de semaine, ils avaient validé le processus de désignation de la future autorité de transition. Plus d'un demi-million de personnes ont fui les violences qui frappent la province de Cabo Delgado au Mozambique depuis plusieurs mois. La crise humanitaire dans la région s'en trouve aggravée, s'alarme l'ONU. Les populations civiles ont en effet abandonné leur terre et leur culture et se retrouvent du coup sans moyens de subsistance. Le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu est attendu aujourd'hui à Bruxelles pour tenter d'apaiser les relations de son pays avec l'Union européenne. Des relations traversées par de fortes tensions sur de nombreux dossiers, notamment les recherches d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. Cette visite intervient alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan, sous pression dans son pays, multiplie depuis quelques semaines les appels du pied à l'Union européenne. À Istanbul, les explications d'Anne Andler.
Depuis deux mois, Recep Tayyip Erdogan multiplie les gestes d'apaisement et des déclarations cordiales à l'égard de l'Union européenne. Fin novembre, il affirmait que la place de son pays est en Europe. En décembre, il souhaitait ouvrir une nouvelle page dans les relations turco-européennes. La semaine dernière, le président turc s'est dit prêt à remettre sur les rails ses relations mises à mal par l'insistance d'Ankara à chercher des hydrocarbures dans des zones maritimes revendiquées par la Grèce et Chypre. En signe de bonne volonté, la Turquie a suspendu ses explorations dans l'est de la Méditerranée, invité la Grèce à reprendre des pourparlers à Istanbul le 25 janvier et annoncé vouloir normaliser ses liens avec la France, particulièrement tendus depuis l'été dernier. La volte-face de Recep Tayyip Erdogan témoigne avant tout des pressions auxquelles il fait face ces derniers mois. L'économie turque en grande difficulté a besoin de regagner la confiance des investisseurs étrangers alors que plane toujours la menace de nouvelles sanctions de l'UE. Surtout, les pays européens ont dit vouloir coordonner leurs actions envers la Turquie avec le nouveau président américain Joe Biden. Craignant un durcissement des positions occidentales, Recep Tayyip Erdogan essaye donc de calmer le jeu. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
La mémoire de la guerre d'Algérie. Un rapport sur cette question épineuse a été remis hier en France par l'historien Benjamin Stora à Emmanuel Macron. Le président français posera des actes symboliques pour apaiser les mémoires sur ce conflit sur la période de la colonisation. Mais pas question de présenter les excuses attendues par Alger, a-t-il annoncé hier. Il est important toutefois de sortir du non-dit et du déni, a-t-il ajouté. Embarras en Russie. Vladimir Poutine disposerait d'un palais de plus de 17 500 mètres carrés au bord de la mer Noire. Un palais financé par des proches du président russe au travers d'une constellation de sociétés. C'est ce qu'a révélé l'opposant Alexei Navalny dans une vidéo diffusée sur Internet alors qu'il est en prison depuis dimanche. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
C'est une véritable bombe. En 24 heures, la vidéo a été vue plus de 30 millions de fois. On y découvre des photos aériennes montrant un somptueux palais de plus de 17 500 mètres carrés dont le coût avoisinerait le milliard d'euros sur un domaine de 7000 hectares, soit 39 fois la taille de Monaco. L'intérieur du bâtiment contiendrait une salle de théâtre privée, une salle de jeu, des lits à baldaquins, une piscine, une salle de sport et de nombreux salons aménagés avec un luxe déconcertant. Selon Alexei Navalny, le président russe disposerait également de 300 hectares de vignes dans la région près de Gelendzhik au bord de la mer Noire. De son propre aveu, l'opposant a attendu d'être de retour en Russie pour prouver qu'il n'avait pas peur des autorités. À l'aide des plans, des documents et des photos qu'il a publiés, Alexei Navalny veut démontrer que tout cela a été financé par des proches de Vladimir Poutine grâce à l'argent de la corruption, son cheval de bataille. Enfin, c'est un moyen d'inciter la population à manifester samedi prochain contre le pouvoir, même si les autorités ont interdit ces rassemblements pour cause de Covid. Le Kremlin dément et met en garde les Russes qui souhaiteraient financer l'opposant contre une tentative de déstabilisation. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
43 morts, c'est le bilan du naufrage d'une embarcation de migrants au large des côtes libyennes. Annonce faite par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les gardes-côtes libyens arrivés sur place n'ont pu secourir que 10 survivants. L'immigration clandestine à direction de l'Europe, on en parle tout de suite dans notre dossier. Et nous nous intéressons plus spécialement aux migrants qui tentent de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries au large de l'Afrique, dans l'Atlantique. Depuis 6 mois, ces îles sont confrontées à ce nouveau phénomène. Alors que les arrivées illégales ont diminué en Europe l'année dernière, une nouvelle route migratoire, dite route de l'Afrique de l'Ouest, semble s'ouvrir. Ils ont été environ 22 000 depuis septembre dernier à l'utiliser, empruntant de fragiles barques prises dans la houle de l'Atlantique. Ces jeunes hommes, principalement, espèrent ensuite être envoyé sur le continent européen pour y trouver un emploi et s'y forger une vie meilleure. Avec la multiplication de ces arrivées illégales, les ONG s'inquiètent. Certains locaux se sentent débordés. Alors comment expliquer ce phénomène nouveau ? Analyse d'Ekram Boumtan. Elle est économiste, spécialisée dans les questions de migration internationale et chercheur à l'Institut National d'Études Démographiques.
Vous savez, c'est vrai que ça peut vous sembler long, en fait, les 6 derniers mois, mais on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir, en fait, interpréter clairement cette tendance-là. Ce que je peux vous dire, en fait, à ce stade, c'est qu'on ne sait pas si c'est un effet de la Covid, en fait, de la crise économique et sociale qui secoue les pays africains à la suite de la pandémie de Covid. Ou est-ce que c'est plutôt effectivement un renforcement de contrôle qui est opéré sur d'autres routes qui expliquerait peut-être qu'on emprunte cette route ?
On parle de la nouvelle route migratoire d'Afrique de l'Ouest. Qui sont les personnes qui l'empruntent ?
De ce que j'ai pu constater en fait à ce stade-là, on n'a pas encore une idée claire sur les nationalités. Plus de 50% des flux qui arrivent notamment sur les îles des Canaries, ce sont en fait des ressortissants d'Afrique du Nord. La principale nationalité, c'est les Marocains. Ensuite, c'est les Algériens et on a les nationalités d'Afrique subsaharienne, donc les deux principales nationalités, mais vraiment les effectifs sont beaucoup plus faibles que les effectifs d'Afrique du Nord. C'est plutôt des Maliens, des Ivoiriens et des Guinéens. Donc c'est une route qui est empruntée par des personnes qui semblent plutôt à la recherche en fait de conditions de vie meilleures plutôt qu'à la recherche d'une protection internationale au sens de la Convention de Genève.
Doit-on craindre que les îles Canaries se transforment finalement en des grands camps à ciel ouvert, en des îles-prisons, à l'image de Lesbos en Grèce ou de Lampedusa en Italie ?
Pour le moment, on n'est pas dans la situation en fait de Lesbos, de la Grèce ou de l'Italie, parce que les îles Canaries, c'est un petit peu plus grand. Et pour le moment, en raison effectivement de la pandémie actuelle, les structures hôtelières sont vides. Le gouvernement espagnol, il a pu utiliser ces infrastructures-là pour gérer l'urgence. À plus moyen terme et à long terme, l'enjeu, il est un petit peu plus différent. C'est plutôt effectivement dans quelle mesure il faut qu'on ouvre par ailleurs des voies de migration sûres et régulières pour notamment pour les personnes peu qualifiées qui recherchent en fait une vie meilleure et qui ne seront pas amenés à choisir ces voies en fait d'entrée dans l'Union européenne qui sont un petit peu plus compliquées.
Dans quelle mesure la Covid a-t-elle ralenti la logistique et les procédures d'envoi ou d'accueil de ces personnes ?
Et de toute façon, en fait, il y a eu une volonté du gouvernement espagnol à ne pas répartir les arrivées en fait sur le continent pour simplement faciliter notamment les renvois vers les pays d'origine. Donc là, on est vraiment confronté à une situation qui est assez particulière, qui cumule deux handicaps. Le premier handicap, c'est un arrivé quand même relativement important de personnes dans une zone géographique relativement limitée dans laquelle il n'y a pas d'infrastructure d'accueil et de prise en charge pour ces personnes, qui est compliqué, comme vous l'avez souligné, par la question de la crise sanitaire, où il faut s'assurer aussi, en fait, en plus de la question opérationnelle, de gestion des dossiers, etc., il faut quand même rapidement faire passer des visites médicales à tout le monde, s'assurer de la quarantaine des personnes. Donc, il y a quand même un enjeu important de santé publique à gérer. En plus, la complication de renvoi vers le pays d'origine, ou même pour répartir les personnes par la suite, en fait, soit entre pays européens, soit les retours vers les pays d'origine, qui est encore plus compliqué par la crise sanitaire.
Interrogé par Marine Henriot, Ekram Boumtan, économiste spécialisé dans les questions de migration internationale et chercheur à l'Institut national d'études démographiques, était ce matin l'invité de Radio Vatican. « Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.